On prend la page 23, on est chapitre 5, Mishnah 3. D'accord ? À Omer, Alkan Sipor. Notre Mishnah va nous apprendre que si une personne veut rajouter dans sa tfila des tachanounines, des supplications personnelles à Kadosh Baruch Hu, il doit faire très...
La Mishnah, on l'aurait fait quand ?
La semaine dernière ? On l'a faite ? On l'a
déjà faite ? C'était présent, hein.
Ouais, on l'a
fait. Je ne me rappelle pas de ça.
Si, on l'a faite. On a parlé de la préparation à la prière, on a fait
un moment.
Quel jour?
Lundi. Alors, notre Mishnah va nous parler donc de... va nous parler du fait que si une personne veut rajouter dans sa prière des tachanounis, des supplications, il a le droit de le faire. Sauf que la seule condition, c'est quoi? La seule condition, c'est que il ne faut pas que dans les supplications personnelles qu'il va rajouter, d'accord, personnalisées qu'il va rajouter, il y a des idées tordues qui vont y ressortir. On va donner des exemples. D'accord ? Ça veut dire que si par exemple quelqu'un il dit quelque chose, même s'il parle d'une bonne intention, mais qu'on risque de mal comprendre ce qu'il veut dire, on risque de croire certaines choses, c'est écrit que Meshatkin Oto, on le fait taire, ça veut dire que. D'accord ? Meshatkin Oto, ça veut dire qu'on le, on le laisse pas avancer. Donc, on va nous donner quelques exemples dans notre Mishnah. Quelques exemples dans notre Mishnah de. Tenez, monsieur Daniel, c'est votre Mishnah, ça.
On parle de la Amida.
De la Amida, bien sûr. C'est principalement le Shler Tibour. On parle principalement du Shler Tibour. C'est celui qui est avec M. Benichou. Donc, Aomer Bitfilato, c'est lui qui dit dans sa prière, Alkan Tzipor, Yagiu Rachamecha. Qu'est-ce qu'il va dire comme ça? Il va dire un Kadosh Baruch Hu, toi tu es miséricordieux. Et si déjà sur un nid d'oiseau tu as eu une certaine pitié, que tu as demandé de renvoyer la mère et de ne pas prendre la, et de ne pas prendre donc la, de pas prendre la mère, enfin de pas prendre les enfants à côté de leur mère, d'accord. Donc puisque Kadosh Baruch Hu, tu as été miséricordieux déjà sur des oiseaux, alors à plus forte raison que tu dois être miséricordieux sur nous. Ça c'est un exemple d'un Shler Tzibour qui veut, c'est pas écrit dans notre fil là, mais il veut rajouter un petit peu, il se sent bien aujourd'hui. Donc une personne qui dit ça, ou bien Ve'al Tov Izacher Shmecha, ou bien qui dit ah Baruch Hashem Kadosh Baruch Hu, puisque tu nous fais beaucoup de bien, alors on t'aime bien. Du style, on t'aime bien parce que tu nous fais du bien. Ou bien, modim, modim. D'accord ? Ou bien, combien de fois on dit modim dans l'Amida ? Une seule fois. C'est-à-dire qu'on remercie, on reconnaît à Kadosh Baruch Hu une seule fois. Et lui, il a envie de dire que non, moi je suis très reconnaissant à Kadosh Baruch Hu. Il dit modim, modim. Du style, je suis particulièrement reconnaissant à Kadosh Baruch Hu. En d'autres termes, c'est-à-dire qu'il a envie de changer du texte qui est écrit dans l'Amida. Il a envie de rajouter des choses. Ou d'accentuer certaines choses. Par exemple, de dire deux fois modim. Ou bien de rajouter des choses qui ne sont pas écrites, mais qui sont tordues. Qu'est-ce qu'on dit dans ce cas-là? Meshatkin Oto, d'accord? Meshatkin Oto, ça veut dire on le fait taire. Pourquoi on le fait taire? Alors ça, il y a beaucoup de commentaires qui expliquent. D'accord? Pourquoi particulièrement dans ces trois cas-là, on le fait taire, ça veut dire qu'on ne le laisse pas avancer. On va prendre le premier cas. C'est quoi le premier cas? Qu'est-ce qu'il a dit dans le premier cas? Il a dit, si déjà Kadosh Baruch Hu a eu pitié d'un... Tu as eu pitié d'un Kan Tzipor, d'un nid d'oiseau, d'accord? Donc, à plus forte raison... que tu devras avoir pitié de nous. Alors pourquoi c'est un problème de dire ça? D'accord? Il y a plusieurs raisons qui sont amenées dans les Mefarshim. Première raison, c'est parce que c'est écrit Mipne chez Matil Kinab et Maase Vereshit. Parce que dans ce cas-là, ce qu'il va faire cette personne, c'est qu'il est en train d'amener la jalousie dans la création du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va se dire, oui, Dieu il a pitié d'un nid d'oiseau, mais il n'a pas pitié des autres animaux. Alors que c'est faux. Et c'est sûr qu'il doit y avoir une raison particulière pour le nid d'oiseau. Seulement moi, quand je dis, je suis parti d'une mal intention, j'ai dit, si t'as eu pitié d'un nid d'oiseau, aie pitié de nous. Oui, mais sauf que quand tu dis qu'il a pitié d'un nid d'oiseau, t'as oublié les autres animaux. Ça, c'est une première raison pour laquelle il ne faut pas dire ça. Deuxième raison pour laquelle il faut pas dire ça, d'accord? Parce que, dans ce cas-là, d'accord, celui qui dit que à Kadosh Baruch Hu, toi qui as eu pitié d'un nid d'oiseau, aie pitié de nous, ça veut dire qu'il est en train de rendre les midas à Kadosh Baruch Hu comme Rachamim. C'est-à-dire qu'il est en train de dire que Kadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait, il gère ça par la miséricorde. En d'autres termes, on comprend ce que Dieu y fait de A à Z. Alors que c'est faux. Ce que Dieu y fait, c'est des xérotes, c'est des décrets. Comme on l'a expliqué Shabbat, d'accord? C'est Kadosh Baruch Hu donné, c'est un décret. Et même les mitzvot qui nous paraissent logiques, pourquoi on les fait? D'accord? On les fait parce que Dieu nous a demandé, seulement Dieu a été gentil avec nous, il nous a montré une certaine raison. Mais c'est évident que Malakmara explique que la vraie raison d'une mitzvah, on ne la maîtrise pas. D'accord? Donc celui qui vient qui dit, oui, Dieu, tu as été miséricordieux sur un nid d'oiseau, et c'est pour ça que tu nous as donné cette mitzvah, donc aie pitié sur nous, on dit, tais-toi. C'est pas pour ça que tu nous as donné la mitzvah. C'est peut-être la raison que Dieu a voulu nous montrer par un chesed pour qu'on soit motivé pour la faire. Mais c'est pas ça la vraie raison. Ça, c'était pour l'histoire du nid d'oiseau. D'accord? Maintenant, après, c'est quoi le deuxième exemple? Qu'est-ce qu'il a dit dans le deuxième exemple? Allez, messieurs, quels sont nos deuxième exemples? Non, Maudit Maudit, c'est le troisième. Qu'est-ce qu'il a dit? À la Tov, Yizacher Shmecha. Ça veut dire quoi?
Pour le bien, ton nom soit célébré.
D'accord?
C'est marqué.
Pour le?
Pour le bien.
Ça veut dire que pour le bien, on parle de toi.
Et pour le mal.
D'accord? Et pour le mal. Bien que c'est possible qu'il parle d'une bonne intention, qui veut dire que moi, je remercie Kadosh Baruch pour tout le bien qu'il m'a fait. Puisqu'on risque de mal comprendre ce qu'il a dit. D'accord? On risque de mal comprendre, on risque de croire qu'on remercie Kadosh Baruch que pour le bien. C'est pour ça qu'est-ce qu'on dit dans la Mida? Ve'alakol, Anachnu Odimlar. Kadosh Baruch, on te remercie pour tout. Ça veut dire quoi pour tout? Entendez par là, même pour les choses qui nous paraissent, d'accord? Qui nous paraissent anormales, qui nous paraissent pas bien.
Mal.
Qui nous paraissent mal. Le troisième, c'était quoi?
Modim, modim.
D'accord? Modim, modim. C'est quoi le problème quand tu dis modim, modim?
De divinité.
Hein, très bien. Où tu as vu ça?
Je suppose, ou alors... Je sais pas
là. Ah, c'est ça, mais où tu as vu ça?
Il est hérétique.
Ah.
Hein? Je hérétique.
Ah, tu as vu, on va... Hein? Pourquoi hérétique, oui? Ça, c'est une réalité à l'époque.
Ouais.
À l'époque, on avait des gens qui faisaient partie du peuple juif, mais qui avaient plusieurs croyances en même temps. Ils étaient bimotes, comme ça. D'accord, ils croyaient en plusieurs venaient à la synagogue, et après, ça ne les dérangeait pas de partir ailleurs. Alors, c'est pour ça...
Au début, ça devait être comme ça.
Alors, il y a même, c'est écrit qu'à l'époque, je crois dans c'est écrit, celui qui disait « Shema Israël, Hashem Ekono, Hashem Echad ». D'accord. Et il fait une erreur. Par exemple, il s'est rendu compte qu'il a mal dit le schéma, il a envie de relire le pasouk. Il dit non, ne le redis pas. Sinon, ceux qui sont à côté de toi, ils vont croire que tu crois en deux divinités.
Il l'a redit,
Et même une halakha aussi, c'est la bracha de la minim et la malchinim. Mm. C'est écrit que sur toutes les autres brachot de l'amida, si le chazan se trompe, d'accord, bon, on le laisse rectifier sa bracha et continue. Mais il y a une bracha dans laquelle s'il se trompe, on ne laisse pas avancer, on le met dehors de la synagogue. C'est quelle bracha? La minime et la malchinime, la bracha dans laquelle on demande à Kadosh Baruch Hu de ne pas donner d'espoir à tous les apostats. D'accord? Et on dit que celui qui le chazan qui s'est trompé dans cette bracha, c'est que certainement il est concerné. Bon, c'est des réalités de l'époque, ça. Aujourd'hui, on n'a plus ces réalités, Baruch HaShem. Alors.
Il y a les juifs pour l'acrobate.
Non, mais eux, ils viennent pas à la synagogue. Ils viennent pas à la synagogue.
Ils sont pas des juifs.
Ils s'appellent les juifs pour. Mais si, il y a des juifs.
Ils sont pas des juifs.
C'est sûr
qu'il y a des juifs, il y en a.
Oui, il y a des juifs.
Les juifs
qui sont fait avoir.
Mais ils sont là, ouais, on met des juifs.
Ils viennent pas à la synagogue, au Hachem.
Non, mais ils recrutent dans
alors. Les donc, à Auvers, les Fnéa Teva.
Que tu dis ça.
D'accord. Que quoi?
Bah, normalement,
qu'est-ce
ouvert.
Que tu dis?
Les Loubalis sont bras ouverts.
Que quoi?
On essaie, pour ces juifs-là.
Mais au Hachem, ils viennent pas dans la synagogue pour pas influencer d'autres personnes.
Oui, bah, peut-être qu'on peut les influencer.
Ah oui, c'est sûr.
Moi, j'en ai rencontré
une. Mon père, il vous racontera une histoire, comment une fois, avec ma mère, ils ont sauvé une fois une famille entière de... C'est sûr. Mais ils venaient pas à la synagogue. Alors, à Auvers, l'Ifné à Teva. Hein, papa, tu te rappelles l'histoire? Côté de Don Rémy, là-bas. Quand j'avais 4 ans.
Ça l'a marqué, oui.
Ah, oui, ça m'a marqué, ouais. Ça m'a marqué.
C'est eux, nos ennemis. Bon, tu m'achèteras un revolver quand je serai grand, papa.
À Auvers, l'Ifné à Teva. Maintenant, celui qui est Shliar Tibour, d'accord. La Teva, c'est ça, d'accord. Donc, celui qui passe devant la Teva, c'est une expression pour dire le Shliar Tibour. Veta, et il s'est trompé. D'accord. Et il s'est trompé. Encore un Ketomi livreur. Je déclarais la guerre au sonneries de Porta, voilà, je vous préviens. Alors, à Auvers, l'Ifné à Teva, Veta.
J'ai une sonnerie. C'est mal, il ferait à la chaîne, mais qu'il va faire.
Celui qui est donc Shliar Tzibour, Veta, et il s'est trompé. Donc il s'est trompé dans le style d'erreur qu'on a dit maintenant. Qu'est-ce qu'on dit? Yahavor Acher Tartav. On doit le remplacer par quelqu'un d'autre. Velo Yesarvan Beotasha. Et il ne faut pas qu'il refuse, parce que vous savez qu'il y a une autre braïta qui dit que lorsqu'on demande à quelqu'un d'Ashler Tibour, en premier temps, il faut qu'il refuse. Pour dire que moi, j'ai pas envie de... C'est un honneur pour moi, et je sens pas que je suis prêt pour ça. Après, on insiste deux fois ou trois fois. Là, dans ce cas-là, il doit dire oui. Hein, ce qu'elle nous dit la Mishnah ici, c'est que dans ce cas-là, lorsqu'on doit remplacer un chazan, on peut dire défectueux, d'accord. Dans ce cas-là, on demande à celui à qui on demande de remplacer, on lui dit « Eloye Sarvan Botasha », ça veut dire... Ne sois pas têtu et ne dis pas bon je refuse, etc. Quand on demande, monte tout de suite. Minaï nous matrive, à partir d'où il doit recommencer. Mitrila tabracha chez Taaba, à partir du début de la bracha dans lequel il s'est trompé. Par exemple, si l'autre s'est trompé dans la bracha en milieu de la bracha de la minim et la malchinim, d'où il recommence le prochain. C'est-à-dire on le vire en plein milieu de l'amida. Hein. D'où il recommence? On recommence à partir de la bracha dans laquelle, depuis le début de la bracha dans laquelle l'autre s'est trompé. Encore une fois, c'est des réalités qui existaient à l'époque. D'accord, mais je crois dit qu'aujourd'hui, on n'a plus ce problème-là. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas des gens comme ça dans les synagogues. On n'a plus de chazan aujourd'hui dans les synagogues qui... C'est déjà pas mal s'ils comprennent ce qu'ils disent. C'est pas comme à l'époque, ils comprenaient ce qu'ils disent. Ils faisaient exprès de penser à deux choses. Aujourd'hui, au Hachem, on n'a plus ces problèmes. Mishnah Dalet. D'accord. Mishnah Dalet, on parle toujours du Shliar Tzibur. Et on va expliquer que le Shliar Tzibur doit essayer de tout faire son possible. Donc le Shliar Tzibur, le chazan. D'accord. Shliar Tzibur, traduction, ça veut dire l'envoyé, d'accord, de l'assemblée. Donc il doit faire tout son possible pour éviter des choses qui peuvent le déranger, d'accord, qui peuvent le déranger dans sa amida, dans cette file en général, et qui peuvent l'amener à faire des erreurs. Donc on va donner des exemples de choses qui pourraient déranger le chazan. A Over l'Ifne Ateva. Celui qui donc Over l'Ifne Ateva, on a dit, ça veut dire quoi? Celui qui passe devant le... Littéralement, Over l'Ifne Ateva, c'est-à-dire celui qui passe devant la Teva. C'est une expression, encore une fois, pour dire celui qui est le Shliar Tzibur. Lo Yane Achar HaKohanim Amen. D'accord. Il ne répond pas après les Kohanim Amen. Donc on parle de quel moment on parle. Juste avant Sim Shalom, d'accord. Quand on dit Atov Shimcha Olchane Elodot, à ce moment-là, deux secondes, j'ai pas fini. À ce moment-là, d'accord, les Kohanim donc font la Birkat Kohanim, d'accord. Et donc ils disent Yivarecha Hashem Vishparecha, Yair Hashem Panavelecha Vichunika, Yisrael Hashem Panavelecha Vesem Lecha Shalom. Là, je ne parle pas du Baruch Hu Baruch Shemo. Ça, c'est déjà une machloket, est-ce qu'il faut le dire ou pas. Pas seulement pour le chazan, d'accord, mais pour tout le monde. Là, je ne parle pas du tout du Baruch Hu Baruch Shemo. Là, je parle du Amen. Que le Amen, d'après tous les avis, on doit le dire, le Amen. Qu'est-ce qu'on nous explique ici? On nous dit que le Amen, le chazan ne répond pas Amen après le Shliar Tzibur. Pourquoi? Mipne Ateruf, parce qu'il risque de s'embrouiller. C'est quand il va répondre Amen, après qu'il a répondu Amen, il doit continuer. Par exemple, il répond Amen. Après, il faut que le chazan il redise hier pour que le Kohanim répète hier. C'est pour ça qu'on dit que le Shliar Tzibur ne dit pas Amen. Mipna Tirou, parce qu'il risque de s'embrouiller. Veim Mensham Kohen Elaou. D'accord. Mais ainsi, il n'y a pas d'autre Kohen à part lui. Ça veut dire si le seul Kohen qui se trouve dans l'assemblée, c'est le
Kohen.
C'est le Shliar Tzibur, c'est l'officiant. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là, hein? Quand? D'après vous, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là, hein?
Normalement, il donne la tfila à quelqu'un d'autre.
Il n'y a pas, c'est le seul qui sait faire.
Il l'a fait.
T'as lu la suite? T'as pas lu la suite?
Il n'élève pas les bras.
Attends.
Si, j'ai les bras. Il est salé avant la tfila.
Non, on a dit, il y a plusieurs détails dans la suite. T'as pas tout lu. Alors, Veïmen Sham Kohen est là où? S'il n'y a pas de Kohen à part lui, l'eau, il sait être capable. Il ne fait pas la bénédiction des Kohanim parce qu'il risque de s'embrouiller. Parce qu'une fois qu'il finit la Birkat Kohanim, il faut qu'il revienne tout après à Sim Shalom. Donc encore une fois, ça risque de l'embrouiller. Sauf Ve'im Aftachato. D'accord. Maintenant, si le Shliar Tzibur se sent que, bon, ça va, je la connais la prière, je peux y aller, je peux faire le Birkat Kohanim, mais je reprends après Sim Shalom, il n'y a pas de problème, je gère. Ve'im Aftachato, si maintenant il pense qu'il sait le faire, chez Uno sait être capable, Rosa les Filato, il se dit c'est bon, je peux faire Birkat Kohanim. Parce que n'oubliez pas que pour faire Birkat Kohanim, il faut qu'il se retourne aussi. Il y a beaucoup de choses qui peuvent l'embrouiller. Et après, juste dès qu'il a fini Birkat Kohanim, il revient, Sim Shalom. Il faut suivre. Si maintenant le Shliar Tzibur il se censure, dans ce cas-là, Rachaï, il a le droit. D'accord? Pourquoi il a le droit? Alors, une des raisons que, bien que... Alors, pourquoi il y a cette exception-là? C'est la Maïmonide qui explique. La Maïmonide dit bien que normalement, tout ce qui peut déranger le Shliar Tzibur dans cette fille-là, on l'interdit. C'est pour ça qu'on lui a interdit de répondre Amen ou Birkat Kohanim. Pourquoi là, tout d'un coup, tu l'as permis? D'accord? Pourquoi tout d'un coup, tu l'as permis? Alors, la raison qu'explique Maïmonide, c'est parce que on fait tout notre possible pour pas que la Birkat Kohanim ne soit pas faite. D'accord? C'est-à-dire que nous, on fait tout notre possible pour que la Birkat Kohanim soit faite. Et c'est pour ça que même dans ce cas-là, que le Shliar Tzibur risque d'être embrouillé, et même si tu dis, non, je la connais bien la tfila, mais on sait très bien qu'il risque d'être embrouillé, comme les Chachamim ne voulaient pas à tout prix que la Birkat Kohanim soit annulée, c'est pour ça qu'ils ont dit Shliar Tzibur, bon, si tu penses que tu viens à la situation, comme explique Maïmonide, à quel moment un Shliar Tzibur il peut dire ça, si c'est pas la première fois qu'il est chazan. D'accord? Là, je parle la guerre au vibreur aussi. Donc si c'est pas la première fois qu'il a fait, ça veut dire en d'autres termes, un Kohen, qui c'est la première fois qu'il monte au Shliar Tzibur, c'est mieux d'éviter de faire Birkat Kohanim, il évite. Alors si c'est pas la première fois et qu'il pense que bon, il connaît bien sa Amida, dans ce cas-là on lui permet parce qu'on fait tout pour ne pas éviter, pour ne pas rater la Birkat Kohanim. Bon, cinquième Mishnah. Allez, écoutez les Tunisiens. On va parler de Simanim. Alors, cette Mishnah, Maintenant, on va plus parler du Shliach Tzibour. On va pas parler enfin que du Shliach Tzibour. On va parler de tout le monde. On va nous expliquer que toute personne doit faire un maximum, doit avoir un maximum de précautions dans cette fila. Bon, pas dans cette fila. Donc, quand je dis cette fila, j'entends la Amida, pour ne pas se tromper. Pourquoi c'est un problème de se tromper dans la Amida? Puisque se tromper dans la Amida, c'est un mauvais signe. Regardez bien ce qu'on va dire ici. C'est pas moi qui le dis, c'est la Mishnah. Amit Palel Veta. Celui qui fait le Shliach Tzibour Veta, il s'est trompé. Donc on parle d'une erreur substantielle, on ne parle pas d'une simple erreur de prononciation, on parle de quelqu'un qui s'est vraiment trompé.
Ça, c'est pas le chali, hein.
D'accord, c'est non, là pour l'instant on ne parle pas du Shliach Tzibour. Donc Amit Palel Veta, celui qui fait la Amida Veta, il s'est trompé. Il s'est trompé dans sa Amida. Qu'est-ce qu'on dit? Siman Ralo, c'est un mauvais signe. Ça veut dire quoi c'est un mauvais signe? Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu est en train de... Ça veut dire quoi c'est un mauvais signe? D'accord. Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu lui envoie un signe que cette fille-là n'est pas en train d'être entendue par Kadosh Baruch Hu à ce moment-là, et qu'il doit chercher un peu plus dans ses actions pour voir qu'est-ce qui ne va pas. C'est écrit dans Shulchan Aruch. Il y en a un qui a écrit aussi dans Shulchan Aruch, ça. C'est écrit que si quelqu'un, hein, il dit, vous savez, Shabbat, il dit, Atakadosh, Shim Rakadosh, Udoshim Choyom, Yalul Chasela, Baruch Ata Hashem, Akel Akadosh. Très bien. Et juste après, d'accord, instinctivement, il continue par Atachonen. Qu'est-ce qu'il dit Shulchan Aruch? Évidemment, bien sûr qu'il reprend tout de suite le début de la bracha, donc Ismar Moshe, etc. Enfin, peu importe la Mida dans laquelle il se trouve de Shabbat. Mais il nous dit le Shulchan Aruch, c'est un signe d'Akadosh Baruch Hu, qu'il y ait fashpesh bemaasav, c'est-à-dire qu'il faut chercher dans ses actions. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quand on se trompe dans cette fila, d'accord, on est en train de présenter quelque chose à Kadosh Baruch Hu. Et si Akadosh Baruch Hu fait qu'on se présente, qu'on se trompe dans notre présentation à Kadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu nous montre un signe que cette fila n'est pas acceptée à ce moment-là, il faut que tu cherches dans tes actions ce qui ne va pas. Comme ça, c'est écrit. Donc, si on se trompe dans la Amida, le cas le plus fréquent, c'est le Shabbat. Ouais, ceux qui se trompent, ils disent Tachonen au lieu de... Ça, c'est le cas le plus fréquent.
Je ne dis pas Yalé Yahou, mais bon.
Bon, ça, c'est une autre question.
Mais la plupart du temps, on ne se trompe pas.
Non, mais des fois, on a dans donc, la
celui bouche, qui se trompe, celui qui se trompe, c'est un mauvais signe. Non, il peut avoir d'autres mauvais signes. Mais ça, c'est un mauvais signe.
Qu'est-ce que ça veut dire, se tromper? C'est ce que tu as dit, là?
Par exemple...
On s'est mal exprimé.
Non, c'est pas mal exprimé. Non.
On a mangé les mots.
Non. Ça c'est pas mal. Non, manger les mots, non. Je parle de tromper, une erreur, comme Atachonen, voilà, Atachonen au lieu de. C'est une erreur.
Une erreur substantielle. On est dans le Shabbat.
Sauter une bracha, par exemple, oui. Non, là, bien entendu, on parle pas de ceux qui sont en train de s'entraîner à faire la Mida et qui sont pas encore l'habitude, que là, évidemment, on va pas mettre ça au contraire, ils sont en train d'apprendre. On parle de quelqu'un qui connaît déjà très bien sa Mida et qui a pas de raison qu'il s'est trompé. D'accord? Nous dit Shulchan Aruch dans ce cas-là, d'accord? Il dit pas mince, je me suis trompé. Non, il dit, mince, je dois faire tes choix.
Mercredi.
Donc, Ve'im Shaliach Tzibur Hu, Ve'im Shaliach Tzibur Hu, si maintenant c'est un Shaliach Tzibur, c'est le Shaliach Tzibur qui s'est trompé, et si il arrive à Takadosh, Shabbat, il fait Atachonen, les foudres, d'accord? C'est un mauvais signe pour qui? Simanra le Sholchav. C'est un mauvais signe pour ceux qui l'ont envoyé, et pas pour lui. D'accord? Pourquoi? Il pnech chez Shluchosh à la dame Kemoto, puisque l'émissaire d'un homme est comme lui. Donc si le Shliach Tzibour représente le Tzibour, et l'émissaire du Tzibour, donc si le Shliach Tzibour, puisque le Shliach Tzibour est comme le Tzibour, donc si le Shliach Tzibour fait un problème, c'est comme si le Tzibour a fait un problème. Amro alav à Rabbi Hanina ben Dosa. On raconte sur Rabbi Hanina ben Dosa. Rabbi Hanina ben Dosa, la Gemara nous dit que c'était un tzaddik et un chassid. C'était un tzaddik très particulier. Et il y avait beaucoup de gens qui venaient le voir dès qu'ils avaient des problèmes pour lui demander, prie pour nous. D'accord? Donc on raconte sur lui, Shaya Mitpalel Alacholim, qu'il avait l'habitude de prier pour les malades. C'est pourquoi prier pour les malades? Ça veut dire qu'il avait l'habitude de demander la miséricorde à Kadosh Baruch Hu, que Hachem leur envoie la refoua chez les mains. Ve Omer. Et dès qu'il finissait sa prière, il disait, Vechai Vezemet. Il dit, tel malade vivra, tel malade mourra. Alors bien sûr, les élèves, à Brolo, ils ont posé la question à Rabbi Chaim, ils ont dit, Minay Natayodea. Je comprends pas, ils sont même pas là les malades. D'où tu sais que lui il va vivre et l'autre il va mourir? Qu'est-ce que t'en sais? De quel droit? Amar Lahem, il a répondu comme ça. Im shgurat filato befi. Si je vois que ma prière est fluide dans ma bouche. Vous voyez que la fluidité c'est pas forcément un défaut. Si vous voyez que ma prière est fluide dans ma bouche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'obstacle. Ça va d'un trait comme ça, ça va nickel. Yodéa Nishou Mekoubal, je sais que ma tchila va être acceptée. Je sais. C'est-à-dire quand je prie pour un malade, si je vois que c'est fluide et que ça coule, d'accord?
Qu'elle a prié pour qu'il meure.
Je l'échelle avec
toi. Bah écoute.
Vous avez dit que vous ne croyez pas à la superstition. Faut vous décider. Donc, im shgurat filatobefi, filatibefi. Si ma prière.
T'es fatigué, t'as la bouche qui.
C'est bismuth. On y va. Im shgurat filatobefi, si ma tfila, et shgura, ça veut dire que ma tfila est fluide dans ma bouche, et qu'il n'y a pas d'embûche, c'est fluide. Donc dans ce cas-là, Yodé Ani Shehu Mekoubal. Il savait à son niveau, Rabbi Chalamed de ça, on n'est pas Rabbi Chalamed de ça, mais lui il savait dans ce cas-là que ça veut dire que cette fila a été acceptée et qu'il vivra. Ve Imlav, mais sinon, d'accord, si cette fila, il voit qu'il a du mal à prononcer la fila, d'accord, Yodé Ani Shehu Metoraf. Dans ce cas-là, il dit, ça veut dire je sais que le malade, d'accord, le malade va bientôt mourir, Metoraf en hébreu, ça veut dire, ça vient du terme bouffé. D'accord, avalé ou bien déchiqueté, d'accord, comme on dit, Yosef, d'accord, quand ils sont revenus voir, quand les frères de Yosef sont revenus voir le Yaakov, ils lui ont dit que Yosef a été, donc Yosef est mort, ils lui ont dit, Yaakov a compris que Tarof, Toraf, Yosef, que Yosef a été déchiqueté, il a été donc mangé par des animaux.
C'est bien le mot Taref.
D'accord. Pas exactement, non. C'est presque la même chose, mais c'est pas la même chose.
Qu'est-ce que ça nous amène, l'exemple de Rabbi Hanina ben Dosa ?
L'exemple de Rabbi Hanina ben Dosa nous amène qu'il faut faire très attention, il faut faire le maximum pour que notre filet soit le plus fluide possible.
Ça, c'est un cas particulier.
D'accord, très bien.
Il dit, moi, quand c'est fluide, je vois que la bénédiction...
Voilà. Pourquoi...
Est-ce que ça veut dire que tout le monde, c'est pareil ?
Si, ben, on a dit que celui qui se trompe dans cette fila, c'est un mauvais signe.
Non, mais là, il parle pas d'erreur, là.
Quoi ?
Sur la fluidité.
Non, lui à son niveau.
Alors,
attention, il n'a pas dit exactement fluidité, il a dit je gourate filatubéfi. C'est-à-dire que la tfila était. Elle coulait dans sa bouche.
Non mais qu'est-ce qu'il nous apprend ?
Ce qu'il nous apprend ici, c'est qu'il faut tout faire, il faut faire tout ce qui est en notre possible pour que la tfila, pour qu'on ne se trompe pas dans notre tfila, que ce soit fluide, deux secondes, c'est pas fini. Mais que si c'est pas fluide dans notre bouche, c'est un problème.
C'est un signe.
D'accord ? C'est un signe. Et pour prouver que c'est un signe, on a même l'histoire d'Rabbi Chalamed de ça. Pour montrer que quand il voyait que cette fila ne marchait pas comme d'habitude, ça voulait dire qu'il y avait un problème. Donc nous aussi, si notre fila ne marche pas comme d'habitude, comme notre habitude, ça veut dire qu'il y a un problème. On n'est pas Rabbi Chalamed de ça. D'accord ? Ce que je t'ai dit, c'est un signe pour nous montrer que si notre fila ne marche pas comme notre habitude, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il faut faire teshuva. C'est pour ça qu'on fait tout notre possible pour que l'amida soit le plus fluide possible. Et si un jour vous sentez que votre amida est moins fluide que d'habitude, il y a un problème. Il faut faire teshuva. D'accord ? Il y a plusieurs histoires dans la Gemara. La Gemara autour de Boker Tov. La Gemara dans la fin du 5e chapitre raconte beaucoup d'histoires autour de ça, de Talmidei Chachamim qui priaient, et que dès qu'ils voyaient que leur Amida avait du mal à faire leur Amida, ils comprenaient que ça voulait dire qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. On racontait chez les Tzadikim, on l'a vu chez beaucoup de Tzadikim, on l'a vu aussi chez le Rabbi, chez Baba Salé, chez beaucoup de Tzadikim, qu'on dit que leurs Chassidim ou leurs élèves, ils savaient que lorsque le Tzadik avait du mal à faire cette fila, des fois on voyait que les Tzadikim, quand ils faisaient la Amida, des fois, on voyait qu'ils se bloquaient sur des mots. Ils arrivaient du mal, ils se trompaient sur des mots. Ça veut dire autant des fois, il y avait des brachas qui allaient très fluides, et tout d'un coup, il y a une bracha, t'as l'impression qu'il bute, on ne sait pas pourquoi. On dit que chez les élèves, d'accord, chez beaucoup de tzadikim aussi, l'histoire-là, c'est l'histoire qui sont racontées dans la Gemara aussi. Chez les élèves, ils savaient que si le tzadik butait sur une bracha, ça veut dire qu'il y avait quelque chose derrière, qu'il devait avoir un obstacle dans le ciel et que le tzadik était en train de se battre contre quelque chose.
Et de là, ils allaient, même le mot sur lequel il butait, il disait
c'est là, il y a un signe. On n'est pas Rabbi Chalamed de ça, encore une fois. Le principe est, si je vois que, s'il vous plaît, le principe est, si je vois que ce n'est pas comme mon habitude, qu'aujourd'hui, d'habitude c'est fluide, aujourd'hui c'est pas fluide, d'accord, c'est que Akadosh Baruch Hu, c'est un signe qu'Akadosh Baruch Hu m'envoie, que je dois faire teshuvah. Comme je dis, c'est pas une Mishnah qui n'a pas été prise dans la Halakha, c'est une Mishnah qui a été prise dans la Halakha, c'est écrit clairement dans Shulchan Aruch, celui qui se trompe Shabbat et qui dit à Tachonen au lieu de Yismar Moshe par exemple, il doit faire teshuva, il doit chercher dans ses actions, il y a quelque chose qui ne va pas. Là, on va commencer le 6e chapitre, on va faire encore une petite Mishnah. 6e chapitre, on va passer carrément sur un autre registre, d'accord, on va passer sur les brachot qu'on doit faire, pour les brachot qu'on doit faire avant de manger. D'accord. Les Chachamim m'ont dit, c'est écrit donc dans le début du 5 du 6e chapitre, c'est écrit que Asur lo le Adam sheyane mina olam hazeh b'lo bracha. Qu'un homme n'a pas le droit de profiter de ce monde-ci sans bracha. Et celui qui profite de ce monde-ci sans bracha, Maal, c'est comme si quelque part qui profite. Donc Maal, c'est un terme que les Chachamim disent quand on profite d'un objet sacré, d'accord, sans payer. Pourquoi ? Parce que c'est écrit dans Tehilim, Lachem arets mouloa, dans le psaume du dimanche, c'est ce qu'on dit. On dit Lachem arets mouloa, la terre appartient à qui ? La terre appartient à Kadosh Baruch Hu. D'accord ? Donc puisque la terre appartient à Kadosh Baruch Hu, nous dit la Gemara, hein, il faut le rappeler constamment, que même si on mange, pourquoi on fait une bracha ? Pour se rappeler qu'en vérité, même si je l'ai gagné grâce à ma parnassa, et ça maintenant je vais le manger, donc il va m'appartenir, pas seulement il va m'appartenir, mais je vais l'administrer, mais je dois me rappeler qu'en vérité, tout ça appartient à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est une des raisons pour laquelle on fait la bracha. Et une autre raison pour laquelle on fait la bracha, ce qui est écrit dans la Gemara, c'est écrit Kodesh Ilulim Lachem. D'accord ? Kodesh Ilulim Lachem, ça veut dire c'est écrit que ce qui est de plus sacré, on doit toujours démarrer par Akadosh Baruch Hu. Donc de là, les Chachamim ont appris, c'est Rabbi Akiva qui a appris, de là, ils ont appris que il faut démarrer avant de manger. La première chose qu'on doit faire, c'est bénir Akadosh Baruch Hu. J'aurais pu dire, je bénis Akadosh Baruch Hu après. Pourquoi pas avant ? Pourquoi je dois bénir Akadosh Baruch Hu avant ? Parce que c'est écrit Kodesh Ilulim Lachem. Que la première chose qu'on doit faire, quand on avait des fruits par exemple, la première chose qu'on devait faire avec les fruits, c'est amener les premiers fruits avant d'en profiter, on devait en amener au Beth Amikdash. Donc de la même manière, nous aussi avant de profiter de ce monde-ci, avant de profiter de quelque chose de ce monde-ci, on fait une bracha.
Les amener ou les nommer ? Les amener ou les nommer ? C'est-à-dire quand on vient de les avoir amenés, tu peux déjà dire que c'est ceux-là qui seront...
On devait au moins les nommer et les dédier pour Akadosh Baruch Hu. Maintenant, le mieux c'était de les amener, si on ne pouvait pas les amener, mais au moins on les mettait de côté, donc on les dédiait. Donc tu les as réservés, donc c'est bon. Mais c'est bien, on commençait par ça. Pas seulement ça. Qu'est-ce que dit la Mishnah ? La Mishnah, elle dit dans PA, elle dit lorsque quelqu'un il rentre dans son champ, d'accord ? Et il voit que, vous savez, c'est pas tous les fruits qui poussent d'un coup. Il y a des fruits qui poussent, il y a des fruits qui sont mûrs avant d'autres. Le premier fruit qu'il voit qui est mûr, qu'est-ce qu'il fait ?
Il met un fil rouge.
Il met un fil rouge autour. Hein ? Il prend un fil. Respect. Un fil rouge, c'est. Tunisien. Les fils rouges, non ?
Non, un fil rouge, on le sait, des fagots de bois qui étaient faits par les Kohanim.
Donc il mettait un fil rouge autour. Pourquoi un fil rouge ? Simplement parce que ça se reconnaît facilement. Un fil blanc, on ne risque pas le reconnaître. Donc il mettait un fil rouge autour, de manière à ce que quand après tous les fruits seront mûrs, dès qu'il arrivera au fruit avec le fil rouge, il dira celui-là, il était pour Dieu. C'est-à-dire que dès le début, il est pour Dieu.
Il a été becqué par les insectes et tout et tout.
Ouais, il y a un bon fil rouge.
Mais ça va pas alors, des bêtes.
Bien entendu, alors, la seule... Il y a une seule bracha qu'on a l'obligation de faire de la Torah, c'est le Birkat Amazon. D'accord ? Et même le Birkat Amazon, pas le Birkat Amazon dans la forme actuelle, mais simplement remercier Akadosh Baruch Hu. Maintenant, les autres brachot, on n'a pas l'obligation au Minatora, c'est une obligation qui est des Chachamim. Donc, dans les mots, on va commencer la Mishnah, première Mishnah du chapitre 6. Ketzad mevachin à la perot. Comment on fait la bracha sur les fruits ? C'est-à-dire, quelle bracha on fait sur les fruits, avant de les manger ? Al perot aïlan, omer, boreperiet. Sur les fruits de l'arbre, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit Boré Peri, donc Baouchata Hashem, le Kodmelech Haolam, Boré Peri Haetz. Quand Boré Peri Haetz, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, donc tu es béni à Kadosh Baruch Hu, celui qui a créé le fruit de l'arbre, puisque là, c'est clairement, le fruit vient d'un arbre. D'accord ? Chutz Min Hayayin, sauf du vin. Que le vin, a priori, vient aussi d'un arbre. C'est un arbuste, c'est un petit arbre, c'est un arbre. Shalayayin Omer, Boré Peri Hagefen. D'accord ? Et sur le vin, on va dire Boré Peri Hagefen. Pourquoi sur le vin, on a changé ? Pourquoi sur le vin, on ne dit pas Boré Peri Haetz ? Quoi la raison ? D'accord ? Alors la Gemara explique la raison, elle dit que bien que le vin donc, vient aussi de l'arbre et qu'on aurait dû dire Boré Periet sont le fruit de l'arbre, pourquoi les Chachamim ont dit Boré Periet Gefen ? Parce que puisque le vin est une importance particulière, d'accord ? Le vin c'est même dans la tête des gens, le vin c'est pas comme du raisin, du vin c'est pas comme du jus d'orange, le vin c'est une importance particulière. On honore quelqu'un avec ça, on offre à quelqu'un une bouteille de vin, c'est important le vin. Depuis l'époque de la Gemara c'est comme ça. Donc pour montrer l'importance du vin, les Chachamim ont dédié une bracha particulière sur le raisin, ils ont dit Boré Peri à Gefen, bien que le raisin est un fruit qui vient de l'arbre. Ve'al Perot Haaretz, maintenant sur les fruits qui poussent de l'arbre, qui poussent de la terre, pardon. C'est-à-dire qu'il pousse, tout pousse de la terre. Mais qui pousse de la terre, ça veut dire sans passer par un arbre. Bien, il y en a qui suit. Omer, il dit, Boré Peri à Adama. Qu'est-ce qu'il dit dans ce cas-là ? Il dit, Boré Peri à Adama, ça veut dire que béni soit-tu à Kadosh Baruch Hu, celui qui a créé les fruits, le fruit de la terre. Si maintenant on a un doute sur un fruit, si c'est un fruit de la terre ou un fruit de l'arbre, quel bracha on dit ? Adama. Pourquoi on dit Adama ? Parce que tout vient de la terre. Et si on a un doute si c'est un fruit ou c'est pas un fruit, qu'est-ce qu'on fait comme bracha ? Shakol. Parce que c'est quoi la bracha de Shakol ? Qu'est-ce qu'on dit dans Shakol ? C'est quoi ce mot ? C'est quoi la traduction de Shakol ? Shakol n'y a mis de varot, tout a été créé par sa parole. D'accord ? Donc, Chutz Min Hapat, bon c'est des classiques tout ça, hein, je pense. Pour tous ceux qui font la bracha, ça doit être des classiques.
Mais on n'est pas sûr que c'est un fruit ? C'est-à-dire que tu vois un paquet de beurre et tu te poses la question.
Chutz Min Hapat, sauf. Je dois répondre à la question ?
Oui, je comprends pas. Au moins un fruit, on est sûr que c'est un fruit. Ah, si c'est de la purée de fruits, tu veux dire.
Chutz Min Hapat, sauf le pain, chalapat ou omer, amotsi les chaminar. Sur le pain, qu'est-ce qu'on dit ? On dit amotsi les chaminar. Pourtant, le pain, hein, c'est un fruit de l'arbre ou un fruit de la terre ?
Ah
ah. Donc on en disait Boré Peri Adama ? Prends-y amotsi les chaminar. Yaakov, c'est bateau pour toi, non? Pourquoi on dit?
On le broute.
Oui, pareil que le vin, oui, vas-y, oui.
C'est spécifique.
Pourquoi c'est spécifique?
Parce que c'est l'aliment qu'on partage.
Parce que c'est
un aliment qu'on partage.
Ah, bien. Ouais, attention, c'est pas comme le vin. C'est pas du tout comme le vin. Hein, Yaakov, on va voir si Yaakov a compris.
Vas-y.
Yaakov, pourquoi sur la, on fait, pourquoi les chamis ont dédié une bracha particulière sur le pain?
Le pain a quelque chose de particulier.
Pourquoi?
Il vient des quelques éléments.
Pas du tout.
C'est pas ça, travail pour le faire.
Non,
tu vas parler.
Tous les fruits font un travail.
Non. Il faut le travail de l'homme.
Il y a d'autres fruits aussi pour lesquels il faut un travail. Si je te montre les plats tunisiens, combien de temps il faut les travailler pour... Il fait un motif aussi, hein.
Il y en a qui pourraient peut-être.
Alors, c'est quoi la raison? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est un plat de base. La raison pour laquelle on fait Boré Pera Geffen sur le raisin, parce que le raisin, c'est un fruit important. C'est pas parce que c'est un fruit de base, c'est un fruit important. Mais pour la raison pour laquelle on fait Amotzi de Chamina Aretz sur le pain, c'est parce que le pain, comme tu as dit, c'est un élément de base. D'accord? C'est un élément de base, d'accord? C'est un élément essentiel.
Alors?
Parce que c'est écrit, d'accord, que il n'y a que le pain qui peut réellement rassasier quelqu'un. D'accord? On dit dans le psaume de Rosh Chodesh, il n'y a que le pain qui peut réellement rassasier quelqu'un. Donc c'est pour ça que les Chachamim ont instauré une bracha particulière sur... C'est sur le pain. On n'a pas encore parlé du maisonnote.
Si tu manges du blé comme ça,
c'est tellement vrai.
Si tu manges des grains de blé,
tu peux brouter.
Si tu peux brouter, tu
te manges.
C'est tellement vrai que pour Patakou, ils ont levé la guéra.
Oui, exactement.
C'est tellement trop dur pour le
peuple. Le pain fait par les Akoun.
Par les non-juifs, oui. La raison.
Pas Akoun, Akoun.
Alors, non, il a raison, c'est la raison qui est écrite. C'est la raison qui est écrite dans la Gemara. Que à la base, le pain non juif était interdit, mais la raison pour laquelle les rachamim l'ont permis, parce que c'est un élément tellement vital que les rachamim n'ont pas le choix. Si on peut de quoi manger, c'est obligé. Ve'ala yirakot omer, boré peri adama. Et bien sur les légumes, d'accord, on dit toujours boré peri adama, puisqu'on considère que les légumes sont d'un fruit qui vient de la terre. Ça, c'est évident a priori. Pourquoi on le dit? Parce qu'il y a un avis qui est en marloket avec ça. Rabbi Yehuda omer, Rabbi Yehuda dit que sur les légumes, on fait une autre bracha, d'accord. Rabbi Yehuda dit, on peut pas faire la même bracha, hein, sur les fruits qui viennent de la terre et sur les légumes. C'est deux catégories différentes, donc il faut avoir deux brachot différentes, ce qui peut être logique. Donc il dit, Rabbi Yehuda omer, boré miné deshaïm. Que sur les légumes, on a une bracha particulière, béni soit-tu à Kadosh Baruch Hu, qui a créé tout ce qui vient de la verdure. D'accord. Dans les faits, la halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda, d'accord. La halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda, et on dit que puisque ça vient de la terre, donc les fruits de la terre partagent la même bracha que les légumes.
Les légumes, c'est des fruits, en fait, hein. Si, botaniquement en parlant, c'est des fruits. Une tomate, c'est un fruit.
En général, un fruit, c'est la différence entre un fruit. En général,
c'est la fleur qui se transforme à chaque fois.
Il y a deux différences générales entre les fruits et les légumes. C'est qu'en général, normalement, un légume, pas tous les légumes, mais en général, un légume a besoin d'être travaillé. D'accord, a besoin d'être travaillé avant de ça, on peut pas le manger tel quel. Pas toujours, c'est vrai, des exceptions. Et à part ça, de manière générale, un fruit est plus sucré qu'un légume.
D'accord.
En général, c'est de manière générale. Mais c'est vrai que tout vient de la terre.
Non, mais un légume, c'est ça. Je sais pas pourquoi ils ont différencié.
C'est pas
en français,
c'est pas la même chose. Ça vient de l'hébreu, le mot péri, fruit.
Une tomate, c'est comme une pomme, c'est la fleur qui se transforme après en fruit.
Mais comment tu prends une graine de la tomate et tu peux la planter comme un fruit?
Bien sûr.
C'est ça la semence.
C'est ça qui... Mais la tomate, c'est un fruit. La tomate, c'est un fruit. Aussi,
botaniquement, quand tu dis c'est un fruit, considéré comment?
C'est des fruits.
La tomate, c'est un fruit.
Attendez.
La tomate, c'est un fruit. Parce que la tomate, elle a besoin de la cuire. La tomate, t'as pas besoin. Il y a deux différences générales normalement. C'est ce que tu dois pouvoir cuire, d'accord. Et est-ce que c'est plutôt sucré ou plutôt aigre,
d'accord. La carotte, tu peux la manger telle quelle. Tu n'es pas obligé de la.
Oui, c'est sucré.
Il y a des tonnes de
fruits. C'est très sucré.
La carotte, c'est pas sucré de base.
Non, mais attendez, la carotte
de base.
Alors,
quand on la cuit. Vous mangez une carotte comme ça, c'est pas sucré. Oui, il y a beaucoup de sucre dedans. Oui, mais on sent pas le sucre.
Dans les fruits de fraises, il n'y a pas de adama.
Il n'y a pas de.
Adama, les fruits de fraises.
Non.
Parce que le vrai fruit, c'est ce qui pousse dans un arbre. Alors,
parce qu'on dit boré péri à Adama. Péri, c'est le fruit.
Où est-ce qu'elle pousse? Il n'y a pas de steak.
Ouais, mais péri, c'est pas au sens fruit, c'est au sens...
De la terre.
Sur la terre.
Tout ce qui est le melon, la pastèque, tout ce qu'on peut produire.
Bon. En tout cas, la halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda, ça veut dire qu'on dit que tout ce qui pousse de la terre, on considère que, vous avez raison, on considère que c'est un fruit de la terre, donc on dit pour réparer Adama, mais apparemment Rabbi Yehuda n'était pas d'accord. Voilà, on s'arrête ici.
Alors tu l'as dit maisonneuf, non?
Non, pourquoi? Pas encore. Ben, on va voir, ça, c'est la suite ça.
Mais pourquoi elle n'est pas
la suite, au prochain numéro. D'accord.
On va revenir la semaine prochaine. C'est pas la Mishnah suivante, c'est encore après.
C'est
non, ce qui embêtait, la Gemara explique que ce qui embêtait Rabbi Yehuda, c'est le fait que... Ce qui embêtait Rabbi Yehuda, c'est le fait que puisque les fruits et les légumes sont deux catégories différentes, D'accord, on voit bien, on ne les mélange pas dans le repas, il y a les fruits et les légumes. Donc lui, il dit, il faut deux brachot dédiés, une bracha pour les fruits, une bracha pour les légumes. Mais dans les faits, l'alakha n'est pas comme lui. Voilà. Pour revenir au Tsipor. Oui. Qu'est-ce qu'il dit le roi David ?
Même le Tsipor qui lui a donné une maison. Pourquoi pas moi ? C'est non. Exactement la même chose.
Non, il n'a pas dit ça. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit Gam Tsipor Matsa Baitla. Même un oiseau arrive à trouver sa maison. Il n'est pas en train de dire, toi, Kadosh Baruch, tu fais une mitzvah particulière autour de l'oiseau.
Mais il le dit en comparaison à Israël qui n'a pas sa maison.
Oui, mais deux secondes. Il n'est pas en train de dire.
Il n'y a pas de miséricorde.
Voilà, il n'y a pas de miséricorde. C'est-à-dire, tout d'abord, il n'y a pas de jalousie qui va être créée entre. Il n'y a pas de jalousie qui risque d'être créée entre les créatures, si on peut dire, à cause de ça. Parce que Dieu n'a rien donné, c'est l'oiseau qui s'est débrouillé. Et deuxièmement, on n'est pas en train de rendre les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu, de les rendre pacifistes, comme ça, de les rendre miséricordieuses. Non, c'est des xérotes, c'est tout. C'est ça ce qui est dérangé. Tu comprends ?
Dans ce télé-livre, tout le monde se...